Bienvenue, chers auditeurs, à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Bonne fête à tous les guys. Cette semaine encore, je vous invite à vous rendre sur le site de notre association, mariedenazareth.com. Vous y trouverez l'actualité du moment et les informations au sujet de cet ultime débat qui aura lieu le mardi 17 juin à l'espace Bernanos, un débat exceptionnel autour d'une figure centrale de l'histoire de France et de la foi chrétienne, Jeanne d'Arc. Alors, il y avait eu déjà un premier débat sur l'existence de Dieu entre Olivier Bonassy et Thomas Guénolé, qui est athée. Ils s'étaient confrontés, ça s'était vraiment très bien passé. Ils ont donc décidé de renouveler l'opération, l'échange, le débat. Et donc, je vous invite à vous rendre le 17 juin à l'espace Bernanos pour suivre leur débat sur Sainte Jeanne d'Arc. Vous pourrez prendre vos places sur place ou alors sur les sites de, nos associations, milleraisonsdecroire.com ou mariedenazareth.com. Alors aujourd'hui, Justina, vous allez nous parler de la famille. Comment la quitter pour suivre le Christ? Mais ce message nous est-il adressé directement?
Oui, bonjour France.
Et puis j'aurai la joie d'accueillir, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, Christophe Biotto, qui a encore tant et tant de choses à nous dire sur Gabriel Bossis. Bonjour Christophe.
Bonjour et tant de choses à vous lire.
Chouette. Alors, nous écoutons à présent, Justina.
Bonjour. Donc, c'est une lecture aujourd'hui, donc Jean chapitre 10, versets 32 et 38, lu dans les paroisses orthodoxes de l'ancien calendrier.
Ah, très bien.
En ces temps-là, Jésus disait « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, à la bru sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix, qui ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. » Bonjour, chers auditeurs. Donc nous voilà avec une des lectures que je trouve moi-même des plus violentes et difficiles à digérer dans les évangiles. Instinctivement, on a envie de sortir les 10 commandements de la loi de Moïse et dire « Mais alors, comment le concilier avec « Honore ton père et ta mère » ?» Bon, un aparté, je le rappelle, les 10 commandements de Moïse ne concernent pas les chrétiens. Je ne veux pas le dire pour dire qu'on a le droit de tuer, de voler, etc. Mais soyons sincères, les 10 commandements sont des points de contrat entre Dieu et le peuple d'Israël. Mmh. Et ces 10 commandements, dans le judaïsme, font produire les 613 mitzvot.
Alors, mitzvot sont les prescriptions de la Torah.
Hein. Exactement, dont plus de la moitié à caractère d'interdiction et l'autre incite à faire certaines choses. Donc, si une personne veut venir me dire qu'un chrétien est concerné par les 10 commandements, bon, qu'il me montre ses tzitzit et ainsi de suite et on verra. et à ce jour, et depuis le premier concile apostolique, donc je fais référence au livre des Actes, oui. Les chrétiens d'origine non juive ne sont pas soumis à la loi de Moïse. Donc si un catholique romain ou un orthodoxe prétend suivre les 10 commandements, alors est-ce qu'il fait le Shabbat, comme le font les juifs?
Non.
Ah non. Est-ce qu'il est circoncis?
Non plus.
Est-ce qu'il porte les tzitzit?
Non plus.
Non plus. Donc il n'y a pas de loi chrétienne orthopraxique équivalente à la loi de Moïse ou bien encore à la charia. Et comment donc interpréter ces paroles de Jésus-Christ si dures et si violentes? Moi la première, quand j'ai lu ce fragment étant encore toute petite, ces paroles ont été un frein à ma foi. Pour deux choses précises. Premièrement, mon profond attachement à ma mère et l'éducation reçue dans un pays à peine sorti du communisme, où il était encore perçu comme honteux de croire ou d'aller à l'église. Donc je me disais, c'est impossible, je ne serai jamais chrétienne. Bien sûr que la lecture littéraliste d'une petite fille de 8 ans avec zéro de culture chrétienne n'est pas la bonne. Il m'a fallu du temps, l'expérience de la vie, pour comprendre que c'est surtout la tradition de l'interprétation qui va m'aider. Mmh. Bon, une fois ado, il fut beaucoup plus facile de se détacher de l'autorité parentale, surtout maternelle, dans mon cas. Quand on découvre que, oups, les adultes ne sont pas parfaits, c'est une déception, mais une déception nécessaire. Ensuite, j'ai dû vraiment surpasser cette peur du jugement de l'autre, et il faut reconnaître que quand on a l'habitude d'être dévisagé pour son look, le reste nous emporte peu. L'exégèse classique nous dit déjà que le glaive qui est apporté par le Christ, c'est l'évangile. L'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Et le Christ n'invite pas à détester ses parents, ses enfants. Il invite à le suivre, mais à abandonner ses propres préjugés avant. Et c'est bien cela qui peut ensuite provoquer les conflits. La société humaine déchue se différencie peu d'une société de tribu des singes. Il y a une hiérarchie.
Encore un singe.
Non, mais j'adore les singes. Il y a une hiérarchie, des tabous, et en cas de dépassement, il y a automatiquement de représailles envers l'élément perturbateur. Comment devenir chrétien si votre famille est laïcarde, guerroyante, ou bien quand la famille est musulmane, ou pire encore, quand il ne s'agit pas de la famille, mais de la société entière, du pays qui vous entoure, qui vous gouverne. C'est inévitablement le chemin du martyr, à degrés différents, bien entendu, en fonction de situation. L'Église orthodoxe, tout comme l'Église catholique romaine, n'invite personne à aller chercher le martyr volontairement, ni de rompre les liens familiaux et amicaux. Nous ne sommes pas sectaires. Mais oui, il faut constater que certains modes de pensée compliquent la vie d'un chrétien dans un milieu hostile. Donc ce n'est pas à vous de chercher les problèmes, c'est les problèmes qui vont venir vous chercher. Et pire encore, l'Église même peut être un milieu hostile. Je ne vais pas me prononcer pour les catholiques romains, mais nous savons très bien que, moi en tant qu'orthodoxe, je peux le dire, au sein de l'orthodoxie française, et je parle de l'orthodoxie canonique et pas des Pokémon de l'autre jour, il y a un certain nombre de familles qui ont pris tout le pouvoir au sein de l'Église et perçoivent l'Église comme une affaire familiale. Et pourtant, ces gens-là ne sont pas des athées. Mais ils regardent de haut tous ceux qui ne sont pas des leurs. Ils sont eux-mêmes piégés par leur conviction que l'orthodoxie est leur affaire familiale. Mais ce n'est pas le cas et je suis là pour le dire. Dieu n'est pas syndiqué chez les Grecs ou chez les Russes blancs ou chez les Roumains ou peu importe, la liste peut être longue. Et c'est précisément contre ce genre de choses que le Christ s'exprime. Il est au-dessus de nos habitudes, de nos lignées familiales, de nos règles de bienséance et de nos traditions locales. Et si on veut vraiment le suivre, il faut mettre nos préjugés de côté. Lors de la prochaine émission, nous parlerons des personnes qui ont, selon moi, mieux que personne, ont réussi à accomplir cette idée, les folles en Christ.
Ce sera passionnant. Merci beaucoup, Justina. Alors, à présent, nous allons écouter les Sœurs d'Asie pour ce texte de Saint Augustin, dont c'est aujourd'hui la fête. « Si tu aimes, cherche ».
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors replongeons dans cette vie incroyable qu'a vécue Gabrielle Bossis. Merci Christophe Viotto d'être à nos côtés.
Merci
pour
beaucoup,
nous parler de cette femme extraordinaire et pourtant si peu connue. Je rappelle que vous êtes agrégé et professeur de lettres modernes dans le public. Et maintenant, comment puis-je dire, premier porte-parole de Gabrielle Bossis, vraiment en tous les cas très fervent supporter.
Et récent,
ça fait combien de temps?
2019.
Ah oui, effectivement.
J'ai découvert Gabrielle Bossis l'année où ma sœur est morte.
Oui.
Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans cette épreuve.
Oui. En fait, ce sont les paroles que le Christ dit à Gabrielle Bossis qui vous ont aidé.
Oui, beaucoup.
Oui. Je pense que c'est pour ça que nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui.
Je voudrais faire
à
parler
tous ces
le Seigneur.
Voilà. La semaine dernière, nous l'avions présenté.
Voilà.
Cette semaine, nous allons écouter le Christ.
Alors là, je vous lis un extrait.
Oui.
Je vous lis un extrait qui est pour moi absolument magnifique. Ingrande-sur-Loire, Le Fresne-sur-Loire, ce sont deux villages des bords de la Loire. Et c'est donc...
Ça, c'est écrit par Gabrielle.
Ça, c'est... Alors, c'est le Seigneur qui le lui dicte.
Ah, d'accord.
C'est un 4 octobre. Il décrit le paysage de Gabrielle... que Gabrielle voit. Gabrielle avait une très jolie maison à Ingrande,
oui,
que ses parents avaient achetée, où ils venaient séjourner. Ils habitaient Nantes. Gabrielle est nantaise. Ses parents, qui étaient des gens qui avaient de l'argent, avaient une maison de campagne au Fresne, une très jolie maison, avec un parc. Et devant la Loire, il y avait une terrasse. Et Gabrielle y a souvent médité. Le Seigneur lui a parlé. Si bien qu'aujourd'hui, cette terrasse... n'est pas devenu un lieu de pèlerinage parce que la maison est toujours une maison privée,
oui,
mais les gens qui viennent de très loin, comme je le disais la semaine dernière,
oui,
pour se recueillir sur sa tombe, passent par la rue principale, la rue où elle habitait,
oui, et inévitablement passent devant sa maison.
Devant sa maison, et peuvent, s'ils mesurent au moins 1m75, peuvent regarder par-dessus le muret et contempler la terrasse. Et voici ce que le Seigneur lui dit un 4 octobre. Aujourd'hui, tu contempleras ma beauté. Déjà ce matin, tu as vu cette flèche rose intense à l'horizon du levant. Puis, en passant sous les arbres, tu t'es arrêté devant les longs fils d'araignées d'octobre, tendus d'une branche à l'autre, avec les gouttes de rosée, rangées en perles comme des colliers ouverts. Et le cri-cri qui avait chanté toute la nuit dans ton cerisier, s'est tu tout à coup, parce que le soleil venait de paraître. Alors, la Loire s'est mise à changer de couleur, avec tant de variété qu'aucun produit de la terre n'aurait pu lui fournir cette richesse. Et les hérons ont passé, en rayant le firmament violet. Si tu sais bien regarder, tout un jour à sa magnificence. Elle vient de moi, elle vient d'un peu de moi. Pour vous, bien sûr, pour développer en vous l'attrait de la louange, le goût de l'adoration, l'amour de l'amour. Et je varie chaque matin mes spectacles pour renouveler vos cœurs. As-tu un fournisseur habile qui cherche autant à te plaire? Tu as quelqu'un pour découper les nuages en ces formes que tu aimes? Tu as un ingénieur pour élargir le flot jusqu'au mur de ta terrasse? Quel est le marchand qui est venu poser des oiseaux dans tes arbres et tant de papillons autour de tes fleurs? Et ce matin, était-ce une fabrique de tulle qui avait déployé comme une gaze la bande de brouillard qui coupait l'île en deux étages? Quelle est la main qui détache avec tant de grâce les feuilles jaunes de tes tilleuls, tandis que tes fraisiers t'offrent leur long gîte pour les fruits des années suivantes? Ouvre bien tes yeux et regarde l'amour. C'est lui qui passe.
C'est très très beau.
C'est bouleversant, c'est magnifique. Alors évidemment, quand on a lu ça, on a envie de voir la maison. On
bien
a envie
sûr
de voir le jardin. Et c'est un... Vous voyez, France, moi je suis professeur de lettres.
Oui.
Et devant un texte comme ça, je dis, c'est un grand écrivain que le Seigneur. C'est écrit,
oui.
C'est phrasé, c'est rythmé, c'est d'une incroyable poésie, c'est d'une très grande originalité, et c'est plein de douceur, plein de gentillesse. C'est Dieu qui écrit, hein. C'est quand même, oui. Elle entend cela, hein. Elle l'entend, c'est Dieu l'auteur de ce texte, ce n'est pas elle.
J'ai une petite question. En tant que professeur de lettres, c'est le genre de texte que vous pourriez faire goûter à vos élèves sans dire qui l'a écrit.
C'est vrai. Ce serait très problématique après, France. Ce serait très problématique
parce que
dans un établissement.
Oui, je
public.
Sais, mais si vous dites, écoutez, d'auteur inconnu, goûtez. On
oui.
a envie de le partager tellement
peut-être
il est beau.
Peut-être mes élèves m'écouteront-ils.
Hein?
Là, j'en serais très heureux.
Oui.
Mais. Personnellement, je dois être, dans le contexte d'aujourd'hui, très prudent.
Très prudent, bien sûr, je comprends. Pardon pour cette digression.
Non, mais vous avez raison. Je voulais lire aussi, pour nos auditeurs,
oui.
quelque chose de bouleversant. Ce sont les derniers messages.
Oui, s'il vous plaît.
Ceux de l'agonie. Alors, je me suis toujours demandé comment elle les avait... elle avait pu les écrire, si elle les a dictés, si elle a dicté ce qu'elle écoutait, ce qu'elle entendait,
oui.
ou si elle a eu encore la force d'écrire.
Oui, parce que en fait, nous devons préciser que les deux derniers mois de sa vie furent une agonie.
En 1950,
voilà.
Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas qu'elle avait un cancer, elle croyait qu'elle avait une pleurésie.
Oui.
Et en fait, elle avait un cancer.
C'est son cancer du sein qui avait métastasé
oui.
sur ses poumons et qui la faisait horriblement souffrir.
Alors, elle meurt le 9 juin et le 11 mai, le Seigneur lui dit... Alors, elle lui demande, « Seigneur, est-ce ma dernière heure sainte sur la terre ? Que toutes tes heures soient désormais des heures saintes. Il y en a si peu avant la dernière. Tu es toute blanchie par l'extrême onction, l'indulgence plénière. Tu le crois bien ? Puisque c'est au nom de mes mérites que s'opère ce miracle de l'extrême onction, de la pénitence, de l'Eucharistie. Tout est effacé. C'est mon amour qui fait cela. Je vous veux à ma ressemblance, mes chers petits frères, tout fondu avec moi, par les soins de ma mère. Si je vous aime en tout temps, c'est encore plus ému que je vous aime, en ce grand moment de la dernière visiteuse. Qu'elle fasse tout ce qu'elle doit faire sur toi. Mais toi, reste dans mes bras en attendant l'ultime fin du voile, du dernier voile rompu. Maintenant, mon ami, ton travail, le voici. Regrette, regrette, regrette tes péchés et aime, aime, aime toujours plus fort celui qui s'appelle l'amour. Seigneur, prends pitié, prends ma petite flamme dans ton feu. Alors bon, je vais lire la fin. Le 24 mai, elle écrit...
Une semaine avant sa mort.
Oui. Plus la force, à peine si j'y vois, à peine si je peux t'aimer. Lui, prends mon regard, prends ma voix, prends mon amour. 25 mai, elle, suis-je arrivée au bout de ma vie ? Est-ce que maintenant, je ne célèbre pas ma première et dernière messe ? Où es-tu, amoureuse présence ? Et après, qu'est-ce que ce sera ? C'est la fin de lui et moi, par ces mots. Il répond, ce sera moi, ce sera toujours moi. Et lui et moi se finit sur ces mots, ce sera moi. Ce sera toujours moi. Je trouve ça absolument sublime. Je ne vous ai pas lu les messages entre celui-ci et le premier que j'ai lu tout à l'heure. C'est très, très beau. Il lui dit le 13 mai, alors qu'elle est plus faible que jamais, il lui dit « Oui, je prends ton corps comme le froment qu'on broie. C'est pour tes frères. » Et elle répond « Pour mes frères avec vous. » Et si vous êtes malade, et si vous êtes à l'agonie et que vous écoutiez cela, ça peut vous aider. Même, je vous conseille de lire Gabriel Bossis, de lire les dernières pages. si on est très malade, si on doit rendre son âme à Dieu, je pense que ces dernières pages peuvent aider à entrer dans l'agonie. Parce que vous pouvez vous associer à Gabriel dans l'agonie, moi c'est ce que j'espère qui m'arrivera, pour pouvoir... Elle nous apprend à mourir. En fait, ces dernières pages de lui et moi nous apprennent à mourir.
Sachant qu'elle est morte seule.
Elle est morte seule.
Mais il lui avait dit qu'elle mourrait seule.
Oui.
Et j'aime beaucoup ce qui est dit aussi quand j'ai préparé l'émission, que j'ai lu je ne sais plus où, mais il dit non, non. Quand on meurt en état de grâce, nous sommes entourés des anges et le Christ est là. Donc non, on ne meurt pas seul.
Exactement. La personne qui la veillait s'est absentée.
Oui.
Parce qu'elle n'en pouvait plus. Je crois qu'il était 4 ou 5 heures du matin. Elle est restée une heure absente. Et quand elle est revenue, Gabriel était morte.
Oui.
Mmh. Oui. C'est impressionnant, hein.
Alors, je rappelle que ces textes se trouvent dans le livre « Lui et moi ». Quel éditeur ?
Alors, ce sont les... Là, j'utilise les éditions Beauchesne.
Oui.
Mais depuis que Gabriel Bossis et lui et moi sont tombés dans le domaine public, tout a été réédité aux éditions Rassemblement à son image, dans l'ordre chronologique.
Oui.
C'est quand même beaucoup mieux.
Oui.
Et
comment
on peut le commander sur Internet.
Alors, Rassemblement à son image.
Oui.
C'est le nom de l'éditeur.
De l'éditeur aujourd'hui. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et je vous conseille vraiment cette édition. Au milieu du livre, il y a de nombreuses photos.
Oui.
Où l'on voit Gabriel dans sa belle maison, entouré de tous ses objets, de sa table avec une très jolie nappe, toutes sortes de broderies elle-même, très coquette, assise dans ses canapés, puis entourée de tableaux.
Oui, parce qu'en fait, elle est contemporaine, donc forcément, oui. Nous avons beaucoup de documentation à son sujet. Alors justement, j'ai suivi, enfin, le père d'Escouvement sur le site des Amis,
oui.
De Gabriel Bossis, nous parle donc de cette grande mystique. Est-ce qu'il l'a rencontrée ?
Ah, ça, je ne sais pas.
Vous ne savez pas ? Parce que je me suis posé la question.
Je ne m'en souviens pas.
Oui.
Je vais bientôt le rencontrer. Il
a 97 ans. Hein.
Oui, mais il y a 2 ans, il est donc venu à la journée Gabriel Bossis,
oui.
L'année dernière aussi, à Ingrande.
Oui.
Là, Ingrande le freine. C'est donc le 20 juin.
Oui.
J'y serai. Il y aura la présidente de l'association,
oui.
Dans quelques jours. Et il y aura le père d'Escouvement.
D'accord. Très bien.
Il sera là. Et j'ai eu la chance de voir un cahier dans lequel Gabriel donc transcrivait ses messages. Il n'y a pas une rature.
Ah,
elle a une très belle écriture. Il ne reste qu'un cahier. Enfin, il ne restait qu'un cahier. J'ai vu aussi qu'elle sculptait. Elle avait des dons artistiques.
Oui, elle brodait aussi.
Elle brodait admirablement. Elle sculptait, etc. Oui, c'est une femme qui avait beaucoup de dons.
Beaucoup de dons, oui. Alors moi, il y a quelques petites phrases, beaucoup plus courtes, qui m'ont touchée. Distraite après la communion, le Christ lui dit « Quand on possède dans son salon quelqu'un de très aimé, on ne se met pas à la fenêtre pour regarder les passants. »
Oui, je me souviens de cette phrase.
Et alors, une remarque sur le credo, elle dit « Il m'a fait remarquer dans le credo « passus » a souffert et tout près de est né, du verbe naître, hein, parce qu'il a souffert toute sa vie.
Ah oui. Et cette phrase du 9 mai 1941, ou ces phrases plutôt, charme-moi, charme ton prochain, on ne charme pas sans sourire. Rappelle-toi que j'ai attaché une force à ton sourire. Le fameux sourire dont nous parlions la semaine dernière.
Oui.
Le fameux sourire de Gabriel Bossis. Oui. Qui a laissé un très bon souvenir aux enfants qui aujourd'hui ont 80 ans et qui m'ont parlé d'elle Ingrande.
Oui. Alors pour terminer, il y a une petite chose qui m'avait beaucoup touchée, c'est que enfant en fait, elle avait comme apprivoisé cette motion, ces locutions, en se disant c'est peut-être le fruit de mon imagination. Donc elle vivait avec. On n'a pas précisé la dernière fois qu'elle était tertiaire de Saint-François.
Oui.
Elle avait demandé à ses neveux de l'enterrer dans son
habit.
Ouais,
elle a été enterrée dans son habit, effectivement,
voilà.
Un habit assez sévère.
Oui. Et pour revenir au fait, au sujet de ces phrases, la première fois quand elle a vraiment compris que c'était lui, mais elle ne voulait pas forcément se le dire, c'était toute son humilité aussi, il lui a dit « Tu doutes que c'est moi ? Fais comme si c'était vrai. »
Oui.
C'est magnifique.
C'est magnifique et je pense que c'est impossible d'inventer ce genre de choses.
Oui, en fait. Oui, bien sûr.
Quand on lit « Lui et moi », on ne peut pas croire qu'on puisse avoir inventé ces phrases extraordinaires.
Et puis, il y a quelque chose qui est assez commun avec les mystiques. Vous me dites, je le découvre, elle a tout écrit sans rature.
Sans rature.
Ça, c'est quand même...
Il reste un cahier que vous pouvez voir, qui est exposé. C'est un cahier très, très précieux. J'ai eu la chance de pouvoir le consulter, il n'y a pas de rature. Elle a une écriture très lisible.
Alors, juste une dernière question. C'est vous la voix dans « Lui et moi » sur la chaîne YouTube ?
Non, ce n'est pas moi.
Elle ressemble à la vôtre. Je pensais que c'était vous. Bon, merci beaucoup. C'est très agréable à écouter. Donc, j'invite nos auditeurs aussi à écouter. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Christophe.
Merci,
c'était une grande joie.
Pour moi aussi.
Puis, je pense que quand je passerai dans la région, je m'arrêterai au Fresnes.
Oui.
Merci beaucoup. Bonne semaine, chers auditeurs. Au revoir, Christophe.